Imaginez mener une expérience scientifique avec la plus grande rigueur possible. Les mesures sont précises, le protocole est impeccable, on teste les données, on obtient un résultat clair. La logique voudrait que pour être encore plus sûr de soi, on doit multiplier les tests, non?
Bah, on aurait tendance à le croire, ouais.
Et pourtant, la réalité statistique est terrifiante. Plus on multiplie les tests pour confirmer une hypothèse, plus on augmente de façon dramatique les chances de publier de fausses informations. C'est en fait le grand paradoxe de l'analyse de données.
C'est clair, et ce paradoxe, c'est un peu le cauchemar silencieux de la recherche. En fait, la plupart des gens perçoivent les statistiques mathématiques comme un appareil de radiographie. On place la donnée sous la machine, on appuie sur un bouton et la fracture apparaît, nette en noir et blanc.
Ouais, la réponse magique, quoi.
Voilà, exactement. Sauf que dans la réalité du diagnostic analytique, cette machine produit souvent des ombres, des artefacts visuels. Et parfois même, elle invente des fractures qui n'existent absolument pas si on la règle mal.
C'est fou. Eh bien, la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à régler cette fameuse machine. Nous allons voir comment extraire la vérité fondamentale d'un ensemble de données divisées en plusieurs groupes sans jamais tomber dans les pièges mathématiques qui génèrent du bruit ou de fausses conclusions.
Un programme chargé, mais essentiel.
Tout à fait. Nos sources pour guider cette réflexion, ce sont des notes de cours universitaires particulièrement denses et passionnantes. Elles s'intitulent « Sciences des données biologiques 1 ».
Et honnêtement, maîtriser les concepts de ce cours, c'est un véritable super pouvoir à notre époque. Quiconque lit une publication médicale, épluche des indicateurs de performance en entreprise ou tente de comprendre un sondage doit réaliser à quel point les chiffres peuvent raconter des fictions.
Surtout si l'analyste choisit les mauvais outils.
Exactement. C'est un raccourci inestimable vers l'esprit critique pour notre public.
Alors, pour rendre cela palpable, nos sources s'appuient sur une étude de cas d'une élégance rare, l'analyse morphométrique de crabes de l'espèce L. variegatus. Le terrain de jeu est assez simple, en fait. On dispose d'un échantillon total de 200 individus.
200, d'accord.
Et les chercheurs ont pris soin d'utiliser ce qu'on appelle un plan balancé, ce qui signifie que les groupes sont de taille rigoureusement identique. On a donc 4 groupes de 50 crabes, des femelles bleues, des mâles bleus, des femelles oranges et des mâles oranges. L'objectif scientifique, c'est de comparer la largeur arrière de leur carapace.
Alors, la première étape de cette étude révèle déjà une grande maturité analytique. Au lieu de se ruer sur les statistiques en utilisant la largeur en millimètres bruts, les chercheurs créent un aspect ratio.
Un ratio de proportionnalité, c'est ça?
C'est ça. Ils prennent la largeur arrière de la carapace et la divisent par la largeur maximale de l'animal.
En y réfléchissant, c'est une parade brillante contre un biais monumental. Parce qu'un crabe plus vieux et globalement plus massif aura naturellement une carapace arrière plus large qu'un jeune crabe, peu importe son espèce ou son sexe.
Bah oui, c'est l'évidence même.
Du coup, si on comparait les millimètres, on finirait par comparer l'âge ou la taille globale des crabes, et non pas la spécificité de leur morphologie. Ce ratio permet de neutraliser le paramètre de la taille pour extraire uniquement l'information sur la géométrie de la carapace.
Et le traitement des données avant même l'analyse définit souvent le succès d'une étude. Avoir des données balancées à 50 individus par groupe évite aussi qu'un groupe énorme ne tire artificiellement les moyennes vers lui.
Donc la fondation est solide.
Très solide. Nous avons nos 4 groupes de ratios. La question qui se pose maintenant semble triviale. Comment savoir s'ils sont différents?
Que l'instinct primaire de n'importe quel être humain face à 4 groupes, c'est de les faire s'affronter en duel. On prend nos femelles bleues et on compare leur moyenne à celle des mâles bleus. Premier test.
Logique.
Ensuite, on compare les femelles bleues aux femelles oranges. Deuxième test. Et si on fait toutes les combinaisons possibles avec nos 4 groupes, on arrive à un total de 6 face à face, 6 comparaisons. Mathématiquement, pourquoi ne peut-on pas simplement faire ça?
Parce que chaque test statistique comporte une marge d'erreur inhérente. Fixons un seuil de tolérance standard dans la science, on accepte généralement 10% de risque de se tromper à chaque test. C'est ce qu'on appelle un risque de faux positif ou erreur de type 1.
Donc on affirme qu'il y a une différence, alors qu'en réalité c'est juste un coup de malchance dans l'échantillonnage, c'est bien ça?
Tout à fait. Et 10% pris isolément, ça semble être un compromis acceptable.
Attendez, je vous arrête sur ce point, car c'est là que le cerveau humain a du mal à suivre la probabilité. Si je fais 6 tests et que chacun a 10% de chance d'échouer, mon risque global n'est pas de 10%.
Ah non, les probabilités d'erreur ne restent pas sagement compartimentées, elles s'accumulent. Pour trouver la probabilité de se tromper au moins une fois sur l'ensemble de l'étude, il faut calculer la probabilité d'avoir juste à tous les coups.
Je vois.
Si le risque d'erreur est de 10%, la chance de succès est de 90%, soit 0,9. Pour 6 tests indépendants, on multiplie cette chance par elle-même 6 fois, 0,9 à la puissance 6.
Le calcul donne environ 53% de chances d'avoir tout bon sur la ligne d'arrivée, ce qui veut dire que 1 moins ce chiffre nous laisse avec 47% de chances de déclarer une fausse différence.
Presque une chance sur deux.
C'est énorme. On vient littéralement de transformer une méthode scientifique en une partie de roulette russe avec les données. On est presque garanti de publier une absurdité.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'accélération vertigineuse de ce phénomène. Nos sources démontrent que ce problème, connu sous le nom d'inflation du risque alpha, devient incontrôlable dès qu'on ajoute des variables.
C'est-à-dire ?
Imaginons une étude médicale comparant non pas 4 mais 10 traitements différents. Le nombre de paires à tester n'est pas de 10, il explose à 45 comparaisons possibles.
45 ces mêmes tests ? Avec ce même petit risque de 10%, ça donne quoi ?
Cela donne 99% de chances d'inventer un faux résultat.
Ah ouais, d'accord.
La méthode des face-à-face est donc morte dans l'œuf. Il est vital de trouver un outil mathématique capable de regarder les quatre groupes de crabes simultanément en posant une seule et unique question globale.
Mais si on ne peut pas comparer les paires, comment évaluer l'ensemble sans multiplier les erreurs ? C'est un véritable casse-tête.
La solution réside dans l'ANOVA, l'analyse de la variance à un facteur. Le génie de l'ANOVA, en fait, c'est de renverser le problème. Elle commence par une supposition stricte appelée l'hypothèse nulle, ou H0.
Et que dit cette hypothèse ?
L'hypothèse nulle déclare d'emblée qu'il n'y a absolument aucune différence entre les groupes. Sous H0, nos femelles bleues et nos mâles oranges appartiennent tous exactement à la même population globale.
Et le travail de l'ANOVA va être d'essayer de détruire cette hypothèse nulle, en fait. Mais concrètement, comment l'analyse de la variance procède-t-elle sans jamais comparer les moyennes 2 à 2 ?
En découpant la dispersion des données. Prenons l'ensemble des 200 mesures de nos crabes. Il y a une variation totale indéniable. L'ANOVA possède cette propriété d'additivité des parts de variance. Elle va prendre cette variation globale et la scinder en deux blocs distincts.
D'accord, je vous suis. Quels sont ces deux blocs ?
Le premier bloc est la variance intergroupe. C'est l'écart mathématique entre la moyenne de chaque groupe spécifique et la grande moyenne générale des 200 crabes. Le second bloc est la variance intragroupe, qu'on nomme les résidus. C'est la fluctuation naturelle des tailles à l'intérieur même d'un groupe de 50 crabes.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. J'essaye de me représenter ça visuellement. Imaginez qu'on essaye de suivre une conversation importante dans une grande salle de réception bondée. La variance intergroupe, l'écart entre nos catégories de crabes, c'est la voix de la personne qui essaye de nous annoncer quelque chose au micro. C'est notre signal.
C'est une excellente image.
En revanche, la variance intragroupe, les petites différences naturelles entre chaque crabe d'une même catégorie, c'est le brouhaha des invités qui discutent autour. C'est le bruit de fond.
Le parallèle est parfait. L'ANOVA ne fait rien d'autre que de comparer le volume du microphone au volume du brouhaha. Mathématiquement, elle utilise la statistique F de Fisher, du nom du célèbre statisticien Ronald Fisher. La valeur F est littéralement le ratio obtenu en divisant la variance intergroupe, le signal, par la variance intragroupe, le bruit.
Ce qui veut dire que si la voix au micro est beaucoup, beaucoup plus forte que les murmures de la foule, qu'est-ce qui se passe ?
Le ratio F devient très grand. Et face à un ratio très élevé, la logique de l'hypothèse nulle s'effondre. S'il n'y avait vraiment aucune différence entre les groupes de crabes, le signal ne devrait pas écraser le bruit à ce point-là.
C'est implacable.
Si le monde fonctionnait selon l'hypothèse nulle, si cette probabilité est minuscule, on rejette H0. On peut affirmer, d'un seul coup et avec un seul test, qu'au moins un groupe se démarque.
C'est brillant d'élégance. On contourne complètement le piège des comparaisons multiples. On a notre miracle statistique. Sauf que, si je me fie à la rigueur de nos sources universitaires, cette élégance doit avoir un prix. Les modèles mathématiques aussi puissants exigent généralement que les données se comportent de manière irréprochable, non ?
Le prix à payer est effectivement élevé. La mécanique interne de l'ANOVA repose sur des fondations théoriques fragiles appelées les conditions d'application. Si les données ne respectent pas ces règles, la statistique F de Fisher produit des résultats complètement absurdes. Les notes de cours insistent sur deux conditions critiques en biologie. La première est la normalité des résidus.
C'est-à-dire que le brouhaha de notre salle de réception doit avoir une forme bien précise.
Exactement. Il doit suivre une courbe en cloche parfaite, la fameuse loi normale. La majorité des crabes d'un groupe doit être proche de la moyenne de ce groupe, avec de moins en moins d'individus à mesure qu'on s'en éloigne.
Et comment on vérifie ça en pratique?
Les chercheurs évaluent cela visuellement avec un graphique quantile-quantile. On trace les données réelles contre une distribution normale théorique. Si les points forment une belle ligne droite diagonale, la condition est remplie.
Ok, donc la première épreuve est visuelle. Et la seconde?
La seconde est redoutable. C'est l'homocédasticité.
Waouh! À tes souhaits.
Merci. C'est un terme très technique qui signifie simplement l'égalité des variances. L'ANOVA exige que l'ampleur du brouhaha soit globalement la même chez les femelles bleues que chez les mâles oranges. On ne peut pas avoir un groupe très resserré autour de sa moyenne et un autre groupe complètement dispersé.
Et il y a un test pour ça?
Oui. On vérifie cette égalité avec un test statistique dédié, le test de Bartlett. Et c'est précisément ici que l'étude de nos crabes heurte un mur de briques. Les données échouent au test de Bartlett. L'hétérogénéité des variances est confirmée.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a une méthode incroyable, mais les données biologiques naturelles refusent de s'y plier. Les variances sont inégales. Faut-il simplement classer l'étude sans suite, jeter les 200 mesures à la poubelle et renoncer à utiliser l'ANOVA?
Cela soulève une question importante sur la flexibilité de l'analyse scientifique. La réponse est non, on n'abandonne pas. Si les données ne s'adaptent pas au moule, on va transformer les données.
Transformer les données? C'est possible, ça?
Oui. L'idée est d'appliquer une même fonction mathématique à absolument toutes les observations. Le but est de modifier la géométrie de la distribution, d'écraser les dispersions trop larges, sans jamais modifier l'ordre de classement fondamental des crabes.
Mais attendez, modifier la géométrie des données pour forcer un test à fonctionner, ça ressemble un peu à de la triche, non? Comme si on torturait les données jusqu'à ce qu'elles nous donnent la réponse qu'on souhaite entendre.
C'est une réaction très saine. Mais mathématiquement, ce n'est pas de la manipulation de résultats. C'est un changement d'échelle. Pensez à l'échelle de Richter pour les séismes, qui est logarithmique. On change l'échelle pour rendre un phénomène lisible. Les chercheurs tentent justement le logarithme népérien en premier lieu.
Et ça a marché?
Non, c'est le réflexe classique en biologie, car cela a tendance à tasser les grandes valeurs et stabiliser la variance. Mais le test de Bartlett est formel, échec. Les variances restent inégales.
Les sources indiquent qu'ils essayent ensuite la fonction inverse, l'exponentielle. Mais même constat, le mur est toujours là. On a vraiment l'impression d'assister à un forçage de serrure. Ils tentent finalement une manipulation très agressive. Ils prennent chaque ratio de carapace et l'élèvent à la puissance 5.
Et cette puissance 5 agit comme le correcteur parfait. Pourquoi? Parce qu'élevé à une telle puissance étire les valeurs de manière asymétrique. L'écart entre deux grands ratios devient exponentiellement plus vaste que l'écart entre deux petits ratios.
Ah, je comprends la mécanique.
Cette distorsion ciblée compense exactement le déséquilibre de variance naturelle de ces crabes spécifiques. Le test de Bartlett valide l'homocédasticité. Les données sont domptées.
Du coup, la porte de l'ANOVA s'ouvre enfin. On lance la machinerie de Fisher sur nos données à la puissance 5 et le résultat est fracassant. Le ratio F grimpe à 151 avec une valeur P infinitésimale. L'hypothèse nulle est pulvérisée. Le signal a officiellement percé le bruit. Une grande victoire pour les chercheurs. L'ANOVA certifie de manière robuste qu'il existe au moins une différence majeure au sein de nos quatre groupes de crabes.
Une victoire certes, mais qui nous laisse sur notre faim. L'ANOVA vient de déclencher une puissante alarme incendie dans un grand immeuble, mais elle est incapable de nous indiquer à quel étage se trouve le feu. On sait qu'un groupe diffère, mais lequel? Les femelles bleues contre les femelles oranges? Les mâles entre eux?
C'est la limite du test. Pour désigner le coupable, il va bien falloir redescendre au niveau des face-à-face. Mais comment faire ça sans réveiller le monstre des probabilités du début? Notre fameux paradoxe des comparaisons multiples.
C'est tout l'enjeu des tests dits post-hoc, ce qui signifie littéralement « après cela ». Le protocole exige une discipline de fer. On a le droit de procéder à ces tests post-hoc que si l'ANOVA préalable a formellement rejeté l'hypothèse nulle. Cette ANOVA agit comme un gigantesque bouclier contre l'inflation du risque alpha.
D'accord, mais une fois le bouclier levé, on doit quand même ajuster notre façon de comparer.
Absolument. Les notes de cours abordent d'abord une méthode très ancienne, la correction de Bonferroni. La logique semble presque brutale. On prend notre seuil d'erreur acceptable global, soit 0,05 pour 5%, et on le divise par le nombre total de comparaisons prévues.
Donc, pour nos 6 face-à-face, cela donne un nouveau seuil microscopique de 0,00833 pour chaque test.
Mathématiquement, la correction de Bonferroni garantit absolument que le risque d'erreur sur l'ensemble de l'étude ne dépassera jamais 5%. Le verrouillage est total.
Le problème, c'est qu'en divisant le seuil de cette manière, on rend la détection d'une vraie différence biologique presque impossible. C'est comme s'équiper de lunettes de soleil extrêmement opaques pour être absolument certaine de ne pas être éblouie. On est protégé, oui, mais on ne voit même plus le paysage devant soi. On risque de passer à côté d'une véritable découverte scientifique.
Et le milieu académique partage largement cette critique. Bonferroni génère massivement ce qu'on appelle des faux négatifs, une cécité statistique face à des signaux modérés. C'est pour pallier cette brutalité que les notes recommandent une approche bien plus raffinée, le test HSD de Touquet. HSD pour Honest Significative Difference, la différence honnête significative.
Le nom laisse entendre qu'il y a des différences malhonnêtes. Comment ce test de Touquet parvient-il à trouver un équilibre ?
Le test de Touquet ne divise pas un seuil arbitrairement. Il construit une zone tampon. Il utilise une distribution mathématique spécifique qui prend en compte le nombre de groupes et l'ampleur de la variance intragroupe calculée par la NOVA.
D'accord. Il utilise les données déjà calculées.
À partir de là, Touquet calcule une valeur critique, un écart minimum exigé entre deux moyennes. Ensuite, on prend nos paires de crabes. Si la distance entre la moyenne des femelles bleues et celle des mâles bleus dépasse cet écart minimum calculé par Touquet, la différence est déclarée honnête et significative.
Et le verdict tombe enfin sur l'étude des crabes. La méthode de Touquet révèle que presque tous les groupes sont significativement différents les uns des autres dans leur morphologie. L'exception se trouve entre les mâles bleus et les mâles oranges. La probabilité qu'ils soient identiques frôle les 6%.
Ce qui est juste au-dessus du seuil.
Exactement. Étant donné notre rigueur fixée à 5%, on ne peut pas techniquement affirmer qu'ils diffèrent, même si l'écart est tangible.
L'enquête est magnifiquement bouclée. Le responsable est identifié. On pourrait le penser, en effet. Mais le processus scientifique exige de douter en permanence. Les chercheurs décident de vérifier une dernière fois les fondations de l'immeuble. Souvenez-vous de la première condition d'application de la NOVA, la normalité des résidus.
Celle qu'on vérifie avec le graphique en diagonale. Les données à la puissance 5 avaient pourtant stabilisé les variances. Ne me dites pas que ça a détruit la normalité au passage.
C'est un équilibre précaire. En retournant voir le graphique quantile-quantile après la transformation, les auteurs remarquent que les extrémités de la ligne se courbent. Aux extrêmes, chez les crabes les plus gros et les plus petits, la distribution s'éloigne dangereusement de la belle courbe en cloche exigée.
Donc après avoir affronté le problème des comparaisons multiples, isolé le signal du bruit avec la NOVA, transformé les données à la puissance 5 et ciblé les coupables avec Touquet, on découvre qu'une condition de base vacille, l'intégrité de la NOVA classique est compromise. Que reste-t-il quand le modèle mathématique vacille aux marges ?
Il reste l'approche de la dernière chance, l'alternative robuste par excellence, le test non paramétrique de Kruskal-Wallis. Ce test ne fonctionne pas ni sur les lois normales, ni sur l'homocélasticité. Son astuce fondamentale est de renoncer aux valeurs mathématiques brutes. Il ne s'intéresse plus aux ratios exacts de carapace. Il transforme l'ensemble des 200 mesures en un grand classement, ce qu'on appelle des rangs.
On abandonne la valeur pour ne garder que la position. Le crabe avec le plus petit ratio devient numéro 1, le suivant le numéro 2, jusqu'au numéro 200.
C'est le principe. Et l'algorithme gère intelligemment les égalités parfaites. Si deux crabes se disputent la deuxième et troisième place, avec exactement la même mesure, on fait la moyenne de leurs places. 2 plus 3 égale 5, divisé par 2, ils reçoivent tous les deux le rang de 2,5.
Malin.
Très malin. Le test de Kruskal-Wallis n'évalue plus des moyennes de millimètres ou de ratios, mais cherche à savoir si les rangs moyens d'un groupe sont systématiquement supérieurs à ceux d'un autre.
L'analogie qui me vient, c'est de regarder une course automobile palpitante. La NOVA classique, c'est essayer d'analyser l'écart exact en millisecondes entre les voitures à chaque tour de piste. C'est précis, mais c'est un flux de données très bruté et complexe à traiter. Le Kruskal-Wallis, c'est décider d'ignorer le chronomètre pour se concentrer uniquement sur l'ordre d'arrivée final. Ce pilote est premier, celui-là est deuxième. L'ordre d'arrivée est incontestable, qu'il y ait eu un dixième de seconde ou cinq minutes d'écart.
Si on relie cela à une perspective plus large, le passage au rang est un compromis philosophique en statistique.
En abandonnant l'information temporelle précise de votre course automobile, on sacrifie ce qu'on nomme la puissance statistique.
La précision ultime, en somme.
Voilà. Si l'écart entre deux groupes est infime, un test paramétrique parfait le captera, là où un test sur les rangs passera à côté. Mais la contrepartie, c'est une robustesse à toute épreuve contre les données aberrantes ou mal distribuées.
Et dans le cas de nos Lepatus variegatus, le changement de méthode modifie-t-il l'histoire racontée par les données ?
C'est l'épilogue heureux de cette étude. L'exécution du test de Kruskal-Wallis confirme l'existence de différences globales écrasantes. Et l'utilisation du test post-hoc associé, la version non paramétrique pour comparer les paires, donne exactement les mêmes conclusions que le test de Tuquet. Les groupes sont distincts, à l'exception toujours de cette fameuse zone grise entre les mâles.
Les sources précisent d'ailleurs que les auteurs recommandent d'utiliser cette version non paramétrique pour la publication scientifique finale dans une revue. Pourquoi choisir la méthode la moins puissante sur le papier ?
Pour des raisons stratégiques liées à la relecture par les pairs, présenter l'ANOVA transformée à la puissance 5 ouvrirait un débat sans fin avec les critiques sur la courbure du graphique quantile-quantile. En présentant le Kruskal-Wallis, on élimine totalement la question de la normalité des résidus. On bétonne les fondations avant même qu'on puisse les attaquer.
C'est une trajectoire fascinante. Nous avons vu à quel point la simple idée de comparer de multiples variables cachait un abîme probabiliste. L'ANOVA a surgi comme une méthode élégante pour jauger le signal contre le bruit de fond. Mais nous avons mesuré l'intransigeance de ces conditions mathématiques. Face au mur de l'hétérocédasticité, nous avons manipulé l'échelle des données, exploré la délicatesse des zones tampons de Tuquet pour traquer les différences, avant de conclure sur la résilience imbattable des rangs de Kruskal-Wallis. Comprendre ce parcours du combattant, c'est vraiment s'offrir une armure intellectuelle pour analyser n'importe quelle information chiffrée.
Il y a cependant une ombre au tableau qui émerge de tout ce parcours et qui mérite une réflexion profonde sur la méthode scientifique actuelle.
Ah oui, laquelle ?
Pensez au degré de liberté incroyable dont bénéficie un chercheur derrière son écran. Face à un jeu de données, il peut tenter l'ANOVA. Si le test de Bartlett échoue, il tente le logarithme, puis l'exponentielle, puis la puissance 5. Si cela échoue encore, il passe au Kruskal-Wallis. Mathématiquement, chacun de ces outils est individuellement valide. Mais le simple fait de pouvoir naviguer de l'un à l'autre sans contrainte ne fragilise-t-il pas l'intégrité de la découverte ?
C'est la question vertigineuse du choix de la lentille, en fait. On en revient au début de notre discussion. Si la machine à radiographie ne donne pas l'image attendue, l'analyste a le droit de modifier le contraste, de changer d'angle, jusqu'à ce qu'une fracture soit enfin visible.
Exactement. Si un chercheur épuise toutes les transformations possibles, teste tous les modèles et choisit à la fin de ne publier et de ne mettre en lumière que le test qui offre l'histoire la plus spectaculaire ou la validation la plus nette de sa théorie de départ, l'objectivité s'effrite. Les mathématiques sont neutres, mais l'acte de choisir la bonne équation est évidemment humain.
L'outil analytique est puissant, mais l'intention de celui qui l'utilise dicte la réalité qui sera publiée. C'est une pensée à laisser infuser. Une grille de lecture essentielle la prochaine fois qu'une statistique prétendument incontestable, assise sur des données complexes, fera la une de l'actualité. Il faudra toujours se demander quel chemin a été emprunté pour arriver à cette certitude. Merci à quiconque écoute d'avoir plongé dans la mécanique de ces chiffres avec nous et à bientôt pour une nouvelle analyse.